Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC, c'est ton podcast Formule 1 sur toutes les plateformes de téléchargement et sur rmc.fr. On te rappelle que c'est une fois par semaine. Avant le retour des week-ends de course, ça se rapproche fortement. On est impatients là avec toute l'équipe du paddock. On a hâte d'être en Australie là la semaine prochaine, de se plonger dans le warm-up. On a Jean-Luc Roy qui ronce son frein là dans le garage depuis maintenant 2 mois, Jean-Luc. Donc on va le retrouver bientôt dès le premier week-end de course en Australie. Les ingénieurs du paddock du jour, Louis Gerbier et Alex Caldi. Salut les gars.
Salut Nico. Oh. Salut Alex.
Oh. Franchement, mais ça arrive vite. En fait, cette intersaison n'a jamais été aussi rapide avec tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression, non?
Ouais. Bah en vrai, surtout que l'hiver a été très très court. Hein. Entre l'attente d'Hamilton et tout, ça allait vite.
Déjà, ça va vite, ça a été court. Et puis après, tout ce qui s'est passé autour d'Hamilton, de Ferrari, je trouve que c'est passé à une vitesse.
Ouais.
C'était dingue. Alors le programme du jour, il est simple, les gars. On va livrer nos prédictions, nos pronos pour cette saison 2025 avec les éléments dont on dispose actuellement. Hein. On va faire une revue complète un peu du paddock avant la reprise de cette saison. Jeudi prochain, je vous le disais, rendez-vous pour le premier warm-up de la saison avant le Grand Prix d'Australie. Je vous rappelle un peu le format, mais le warm-up, c'est quand on se plonge vraiment dans le week-end de course. On analyse le tracé, le circuit, les forces en présence, les premières interviews qui tombent. Donc on sera vraiment à Melbourne avec les pilotes pour débuter cette saison. Et puis bien évidemment, les copains, on va garder tous vos pronos. Et on les ressortira en fin de saison, au milieu de la saison, en fonction
on
de ce qui se passe.
On rappelle que j'étais excellent sur la saison 1.
Non, alors, t'as très mal démarré, mais t'as plutôt pas mal terminé.
Ouais. Quand même, j'en ai eu un à peu près de bon sur la fin, mais je suis mal parti.
C'est vrai que t'es pas très bien parti, mais bon, là, ça va aller mieux. Allez, c'est parti pour ce paddock RMC. Et je vous fais le teasing en bref de cette saison 2025, les amis. 8 line-up de pilotes différentes par rapport à l'année dernière. 5 rookies. La hype Lewis Hamilton chez Ferrari qui cristallise toutes les attentions. Voilà, ça va être ça un petit peu la saison 2025 avec aussi la projection sur cette année 2026 et sur toutes les révolutions techniques qui vont avoir lieu l'année prochaine. Ça va bien évidemment peser dans notre analyse de notre saison. Les gars, on va compartimenter un peu ce podcast. On va se focaliser au début sur les pilotes, puis sur les constructeurs. Et puis après, vous aurez vos petites prédictions, vos pronos un peu zinzin. bon, je vais pas faire de teasing. Il y en a un qui revient beaucoup. Je sais même pas si c'est un prono. En fait, on sait que ça va se passer, mais on attend de savoir peut-être quand. On verra si vous partagez le même avis que moi. Première question, Louis, qui va remporter le championnat pilote alors déjà, on peut quand même vous demander une petite intro, mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est la saison la plus excitante depuis bien longtemps, peut-être la saison la plus excitante de notre vivant ou depuis qu'on s'intéresse vraiment à la Formule 1 à fond? Moi j'ai une excitation là, il y a une hype de dingue avant cette saison 2025.
C'est l'arrivée du printemps, Nico, ça n'a rien à voir.
Clairement, je
crois que je suis dans le même état d'esprit parce qu'il y a plein de choses et que pour une fin de réglementation qui je me souviens de la fin de la dernière réglementation, on n'a pas cette hype non plus, quoi. On se dit bon, vivement la nouvelle voiture limite et tout. Là, t'as vraiment envie de voir cette saison, voir ce qui se passe et une grosse hâte d'être en Australie. Clairement, je pense que sur les dernières années, je sais pas si on a eu ça. Franchement, elle est au-dessus celle-là.
Ouais, Alex.
Bah en fait je suis assez d'accord, mais c'est-à-dire que ce qui est assez fou de par rapport à cette saison qui arrive, c'est que ne serait-ce que juste Lewis Hamilton qui signe chez Ferrari, déjà c'est immense. Ne serait-ce que ça, c'est une excitation fois 1000, fois nettement plus, fois 1 million. Mais en plus de ça, t'as tous les line-up qui changent. On rappelle que si je me trompe pas, il y a eu 10 changements de pilotes, donc 8 line-up qui ont changé, donc quasiment plus de la moitié, enfin il y a la moitié de la grille qui a changé par rapport à l'année dernière. On est sur une fin de réglementation, donc ça veut dire que toutes les écuries en tant que telles ont une connaissance quasi absolue, on va dire ça ainsi, de la réglementation qui est en train de se terminer. Donc on a un resserrement en plus de ça, donc une convergence des forces de performance par rapport à ne serait-ce qu'à la fin de la saison dernière. On a une bataille entre Ferrari, Mercedes, Red Bull, même si ça a été nettement plus compliqué, et forcément la Scuderia Ferrari. Il y a eu un resserrement de tout ça, ce qui nous amène forcément sur un début de saison. On se dit, mais s'ils étaient aussi proches l'année dernière, qu'est-ce que ça va être cette saison où ça va se basculer en termes de victoire de Grand Prix, ça va se basculer en termes de bataille pour le podium, ça va être aussi très compliqué d'une certaine manière de même voir qui peut aller remporter cette saison 2025 de Formule 1, ne serait-ce qu'en termes de pilotes. Et puis il y a même, j'ai envie de dire, il peut y avoir aussi des dramas, comme je pense bien sûr à Red Bull, mais en particulier du côté de chez Alpine, avec le cas de Doohan et Colapinto. Bref, en fait, à tous les étages de la grille, on a une excitation de fou par rapport à tout ce qui peut se passer, même notamment par rapport à Williams, où c'est une, pour moi, c'est l'écurie la plus intrigante par rapport à 2025.
En fait, il peut se passer tout et n'importe quoi, que ce soit dans le midfield, que ce soit en fin de grille, que ce soit pour le titre, que ce soit pour remporter des courses, pour aller chercher des points. Et c'est ça qui est assez dingue dans cette saison 2025. Je reviens à ma question. Va falloir se mouiller, les mecs. Qui va remporter le championnat pilote?
Mais je crois qu'on aura une V2 dans deux semaines ou pas.
Est-ce qu'on fait une update?
Non, mais on va suivre, bien évidemment, notre team principal. On sait qu'on se mouille avant le début de la saison, que c'est très compliqué avec les infos qu'on a. On n'a que les essais hivernaux de Bahreïn comme valeur référence, avec des écuries qui n'ont pas sorti le grand jeu, qui n'ont pas tout dévoilé. On le sait bien. Donc, bien évidemment, on est un peu dans de la Formule 1 fiction. Jean-Luc nous dit souvent que c'est au bout de 3, 4, 5 courses qu'on connaît vraiment la réalité du plateau et les forces en présence. Donc,
il avait raison l'an dernier en plus, hein, qu'il avait dit ça.
Mais bien sûr qu'il a eu raison. Bah, c'est le goût,
hein, de toute manière.
Il nous écoute, hein. On ne peut pas dire autre chose, c'est lui qui nous emploie. Donc voilà, mais mais avec ce qu'on sait actuellement, déjà, on peut avoir quelques petites tendances. La petite tendance, c'est que McLaren va vite. Et ce n'est pas nous qui le disons, hein. Après les essais hivernaux, Pierre Vacher, les retours de Ferrari, les retours techniques montrent que McLaren, par exemple, va super vite. Donc pour vous, là, avec les éléments qu'on a, qui sera champion du monde en fin de saison? Mes amis, Louis.
Lando Norris.
Ah, c'était mon idée.
Vraiment, là, c'est plat du pied, hein, sécurité. Je dis un peu l'évidence, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors qu'on n'a que les essais et que, là, on va dire un peu que le point de convergence de tous les observateurs, c'est que McLaren a sûrement un petit temps d'avance, voire un temps d'avance, fait que, après, tu prends le line-up et tu fais pique-nique-douille entre Piastri et Lando, et je dis Lando, voilà.
Et ça veut dire que vous voyez Lando quand même assumer mentalement ce statut-là. Ouais. On sait que ça a pioché Alex la saison dernière, qu'il a beaucoup appris, ok, mais il va falloir ne pas se trouver parce qu'il a probablement, là, en tout cas sur ce début de saison, sur les 3-4 premières courses, la meilleure voiture du plateau. Et mentalement aussi, ça peut s'effriter du côté de chez Lando. Hein, c'est une donnée à prendre en compte. Hein.
Je suis d'accord, mais pourquoi je pense que Lando Norris va remporter le titre cette saison? Parce que je pense qu'elle a eu la meilleure formation pour se batailler justement pour aller chercher un titre. L'année dernière contre Max Verstappen. Il faut rappeler que là, cette saison, ça va être la première fois de l'histoire de McLaren, on va dire depuis 2007-2008, qu'ils vont pouvoir se battre pour en débuter une saison en ayant l'idée, en ayant l'objectif et en ayant les capacités au niveau de la voiture de pouvoir aller chercher le titre mondial. Et c'est ça, en fait, moi qui m'impressionne vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que McLaren, enfin, va démarrer une saison en étant l'écurie à battre. Et Lando Norris va certainement débuter cette saison en étant le pilote à battre. Max Verstappen, quand tu regardes de l'autre côté, il y a beaucoup d'incertitudes avec la voiture, avec la RB21 qui n'est pas, j'ai envie de dire, la plus déperformante au niveau de ce qu'on a pu voir justement des essais hivernaux. Ça, c'est pas au même niveau par rapport à McLaren. Mais Lando Norris, quand tu regardes sur les essais hivernaux, très calme, très posé. Il a compris toutes les erreurs de vis-à-vis de l'année dernière. Maintenant, quand tu comprends, il faut après les appliquer et à trouver les solutions. Mais je pense que le groupe McLaren, j'ai envie de dire, dans la globalité, a vu comment s'est composé la saison dernière. Ils ont fait des erreurs dans la grande majorité, l'écurie McLaren en tant que telle. Donc ça veut dire Norris, Piastri et les patrons d'écurie. Et on en arrive à une situation où tu arrives à 2025. Lando Norris, j'ai l'impression qu'il a tous les solutions. Il sait quelles solutions avoir. Maintenant, il faut les appliquer. Mais surtout, ils ont tous les outils aujourd'hui, McLaren, pour pouvoir battre Red Bull, Mercedes et la Scuderia Ferrari, qui, à mon sens, sera peut-être pas la deuxième force en termes de performance, mais la deuxième force en termes d'équipe et justement d'attaque vis-à-vis de McLaren. Et c'est pour ça que je pense que Lando Norris, à mon sens, sur le début de saison, sera très très fort. Mais sur la suite de la saison, ils auront compris ce qu'il ne faut plus faire par rapport à l'année dernière.
Piastri en dessous par rapport à Norris.
Pour moi, il y a un peu un manque de. Peut-être que c'est l'expérience, et très certainement d'ailleurs. J'ai senti beaucoup par rapport à l'année dernière.
Il a mal terminé la saison, Alex, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais ça a été dur la fin de saison pour Oscar Piastri.
Et déjà, je pense qu'il y a un truc l'année dernière qui a beaucoup joué, c'est-à-dire qu'on a fait passer Oscar Piastri pour un pilote numéro 2.
Et ça, pour un pilote comme Oscar Piastri, qui est aussi managé, il faut le rappeler, par Mark Webber, qui n'était pas entendre vis-à-vis de ça, qui a lutté toute sa fin de carrière vis-à-vis de Sébastien Vettel, face à Sébastien Vettel, justement, ça peut énormément jouer. Donc Piastri, lui, il a dit en tout cas qu'il avait les outils nécessaires chez McLaren pour se battre pour le titre mondial. Cependant, je pense que l'expérience va être problématique vis-à-vis de ça, parce que tu dois te battre contre Verstappen, contre Lando Norris, son coéquipier, forcément. Maintenant, à voir la tactique de McLaren, parce que McLaren, l'an dernier, ils ont mis les améliorations sur la voiture priorité à Lando Norris. Est-ce qu'ils le referont cette année vis-à-vis d'Oscar Piastri? Là aussi, c'est une bonne question.
Justement, moi, je pense que pour aller continuer ton argument, c'est quelque chose qui est possible, parce que Norris, il a parfaitement appris de la saison dernière, et pourquoi pas les équipes aussi, et se dire que l'année dernière, quand il y a eu des hésitations à dire les choses et à donner l'avantage à Norris, ça a peut-être fait perdre des points ou fait perdre la bonne dynamique à ce moment-là, et peut-être que justement cette année ils vont se dire nous aussi on va faire plat du pied sécurité, le premier qui a un peu plus de points au bout de 2-3 Grands Prix, c'est pour lui, ou tu vois, voilà, j'exagère évidemment, mais qui vont plus vite prioriser celui qui est devant de manière totale, quoi.
Surtout McLaren, donc, à mon sens, Norris. McLaren a certainement le deuxième meilleur line-up de la grille aujourd'hui, en plus.
Ouais, c'est possible, C'est vrai que c'est fort.
Hamilton, Leclerc, quand même.
Mais je trouve qu'il y a des line-up tellement sympas cette saison que c'est peut-être difficile de dégager une hiérarchie. Bon, c'est sûr qu'il y a Hamilton, Leclerc sur le papier, quand même.
C'est grotesque, quand même.
Tu vas pas les chercher.
Même dans l'histoire, peut-être unpopular opinion, je pense que dans l'histoire de la Formule 1, on a peut-être, jamais eu. Prost, Senna, peut-être. Mais sinon, on n'a peut-être jamais eu un line-up aussi impressionnant en termes d'aura, en termes de hype et en termes peut-être de performance, ne serait-ce qu'en piste, aussi fort que Hamilton Leclerc.
C'est vrai qu'à part Prost, Senna, qu'est-ce qu'on a eu comme écurie?
Il y a eu peut-être Prost, Lauda.
Prost, Lauda. Après, quand tu réfléchis dans les années 2000, Häkkinen, Coulthard, c'est moins fort sur le papier. Les années Ferrari Schumacher, il n'y avait pas un coéquipier du niveau de Charles Leclerc, parce que maintenant tu dis que Charles Leclerc c'est le coéquipier d'Hamilton quand même.
C'est vous, bien sûr. Mais Vettel, même ne serait-ce que Vettel, Vettel Leclerc, c'était un line-up très solide aussi, c'est pas au niveau de, à mon sens.
Le Vettel.
Puis c'était encore le Leclerc d'aujourd'hui, c'était trop le Vettel de Red Bull. Bon, après tu vas me dire, Hamilton n'est plus le Hamilton pré-2021 de chez Mercedes non plus, mais c'est clair.
Mais il a gagné des courses l'année dernière,
Là j'ai le sentiment qu'on va justement retrouver. Peut-être un prime Lewis Hamilton au vu de la joie qu'il peut avoir.
Mais on est encore, ce que j'allais dire, c'est qu'on est encore dans la phase où on espère quelque chose d'Hamilton, quand vraiment Leclerc-Vettel, déjà on se disait, Vettel, on lui a laissé Singapour en faisant un undercut bizarre, et puis il était déjà un peu parti, quoi. Alors que, line-up incroyable. Moi je pensais aussi à Grosjean Raikkonen quand même chez Lotus.
C'était du très très haut niveau. Ça c'était incroyable.
C'était un très bon line-up.
Et puis Raikkonen qui a pris la caisse.
Raikko, il me manque un peu. La froideur finlandaise.
Il manque, même si à la fin, certains disaient, son personnage, c'est relou, c'est toujours le même.
Non, mais
moi, je l'aimais bien.
Moi aussi, j'aimais bien.
Alors, une popular opinion, moi, j'arrivais pas avec lui.
Ah ouais?
Pour moi, Raikkonen, c'est une fois, une fois que l'hybride est arrivé, il était en mode, il comprenait plus, il y a trop de boutons sur le volant, il fonctionnait plus, quoi.
Après, c'est quand même, Scandinavie, c'est carré, c'est carré, Raikko, fallait que ce soit carré, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Allons sur Ferrari, tiens, les gars. Est-ce que pour vous, c'est la deuxième force du plateau qui émerge devant Red Bull, devant Mercedes, Louis, et surtout Hamilton, Leclerc, qui on voit terminer devant l'autre? Parce que la question, c'est ça, c'est que ce duel interne chez Ferrari, il excite tout le monde. Donc toi, est-ce que tu vois Hamilton être capable de faire mieux que Leclerc sur sa première saison chez Ferrari, Louis?
Alors, je le vois évidemment capable, mais je pense que ça sera Leclerc. Mais je pense que ça va être très serré. Mais je dirais Leclerc, voilà. Je développe pas, c'est parce qu'en vrai, on est trop loin pour.
Non mais il y a quand même un truc, Alex, c'est que chez Ferrari, et on l'a vu, Lewis Hamilton, il a commencé à apprendre l'italien. On sent que
ça permet de gagner trois dixièmes.
Non, mais je pense que c'est un détail. Enfin, c'est un détail qui n'en est pas dans le sens où ça veut dire que le gars, par rapport à l'investissement, il sait qu'il est dans une maison, dans une écurie hors norme, et que c'est pas Ferrari qui s'adapte à Hamilton, c'est l'inverse. Ferrari. Et ça, je pense que ça peut compter. Maintenant, ça veut dire aussi, Alex, que le contexte Ferrari, il faut l'appréhender. Même quand t'es Lewis Hamilton.
Mais c'est
même,
vrai, c'est
malgré ça tout. Ça va prendre du temps, peut-être.
Mais je suis totalement d'accord. Et même, je trouve que c'est impressionnant de voir déjà d'une Lewis Hamilton oser le pari Skoda Ferrari. Et en plus de ça, d'avoir l'humilité à 40 ans aujourd'hui, ou il a plus de 40 ans même d'ailleurs, de tout réapprendre, de quasiment être un rookie de la Formule 1, de réapprendre tout un système aussi de travail et tout un univers de travail. On rappelle qu'il a passé toute sa vie avec un moteur Mercedes, ne serait-ce que ça, qu'il a passé toute sa vie à travailler du côté de dans un univers anglo-saxon avec McLaren et Mercedes. Et là, il arrive à plus de 40 ans dans un tout nouvel univers. C'est peut-être le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, statistiquement parlant, et à mon sens, même dans la globalité, ça c'est débat. Mais arriver à Maranello dans l'univers, j'ai envie de dire latin, dans l'univers italien, qui n'est pas simple quand tu es quelqu'un de l'univers anglo-saxon, s'adapter à tout ça, bah réussir à avoir l'humilité de te dire, ok, j'ai peut-être gagné 7 fois 7 titres de champion du monde, peut-être que j'en gagnerai un 8e avec la Skoda Ferrari, mais si je veux gagner un 8e avec la Skoda Ferrari et aborder le plus gros, j'ai envie de dire, défi de l'histoire, j'ai envie de dire même de presque de la Formule 1 et surtout de sa carrière pour potentiellement dire j'ai fini le jeu, j'ai gagné avec Ferrari, bah, il faut que je m'adapte à la Scuderia, à Maranello, à la manière dont ils travaillent, à la manière dont ils agissent, à la manière même d'une certaine manière où ils réfléchissent, bien sûr. Et aussi, surtout, je trouve qu'il arrive peut-être au meilleur moment, Hamilton. Parce que s'il est arrivé ne serait-ce que 1 ou 2 ans avant, bah, il n'y aurait pas eu, je pense, la même qualité de travail, la même qualité d'adaptation aussi. On sent aussi qu'Hamilton est arrivé dans une fin de cycle vis-à-vis de lui par rapport à Mercedes, parce que je pense qu'Abu 2021 est resté dans sa tête et ça semble presque se confirmer au vu de la joie qu'il a aujourd'hui du côté de Maranello et du côté de Ferrari. Et pour toutes ces raisons-là, bah, je pense que s'il y a une question entre qui va être devant entre Leclerc et Hamilton, si vraiment il arrive à garder, j'ai envie de dire, ce mojo Lewis Hamilton. On parle quand même de Lewis Hamilton avec tout le respect que j'ai pour Charles Leclerc. C'est Lewis Hamilton. Point. Tu peux pas battre
c'est
en fait
Sir Lewis, Lewis Hamilton.
Sir Lewis Hamilton.
Dis.
Et en plus de ça, le seul qui a réussi à battre Prime Lewis Hamilton, c'était Max Verstappen. Et il a eu ce titre, Max Verstappen, sur, j'ai envie de dire, un Grand Prix où il est pour rien, hein, Max Verstappen, mais un Grand Prix controversé à Abu Dhabi.
Ouais, c'est clair. Je vous rappelle quand même que Ferrari n'a plus gagné depuis 17 ans. Hein.
Ouais, les gars. Un titre constructeur.
Donc là, ça commence à faire. Et on se dit que cette année, ça peut être la bombe. On va écouter Charles Leclerc qui est revenu lors du troisième jour des essais en longueur là, sur cette relation avec Hamilton, sur le fait que forcément, lui était un peu éclipsé par cette arrivée d'Hamilton dans l'écurie. Qu'est-ce que ça change pour lui? C'était au micro de nos confrères de Canal. Vous allez voir, on vous l'a monté sur la longueur parce que c'est vraiment intéressant d'avoir l'avis de Charles sur tout ça, sur comment il se projette sur cette saison 2025.
Pour ce qui est de la tension autour du team, bien sûr qu'il y en a moins sur moi et c'est normal parce que quand il y a une légende comme Lewis qui rejoint le team le plus iconique de la grille Ferrari, c'est normal que toute l'attention se concentre sur lui. Mais de mon côté, je me concentre sur moi-même comme j'ai toujours fait et ça ne change pas forcément qu'il y ait l'attention sur moi ou pas. Mais par contre, c'est sûr que c'est exceptionnel d'avoir Lewis en tant que coéquipier. C'est une énorme opportunité pour moi. Je l'ai dit, je pense 150 fois et même à vous, mais je vais me le répéter. Mais l'opportunité d'apprendre de lui et en plus de ça, de montrer ce que je sais faire. C'est un challenge que j'aime beaucoup et c'est super intéressant pour moi. Donc là, c'est les premiers jours qu'on fait dans la nouvelle voiture ensemble. Malheureusement, les conditions changent pas mal du matin au soir. On en fait aussi les différents tests, donc c'est toujours un petit peu compliqué de comparer le driving. Mais bon, on s'analyse déjà un petit peu de la manière dont on travaille avec les ingénieurs, etc. Donc c'est intéressant.
Charles, l'année dernière, vous aviez construit une formidable relation avec votre équipier, très positive, ça rejaillit toujours sur le team. Comment vous allez faire pour construire la même chose avec un septuple champion du monde qui prend pas mal de place?
Vous savez quoi, je pense que ça vient vraiment naturellement. Honnêtement, je ne suis pas une personne très compliquée. Normalement, je m'entends avec 99% des gens que je rencontre. Donc, je ne pense pas que ce sera très compliqué. En plus, ça, avec Lewis, on a vraiment eu un super feeling dès le début. On en avait déjà un très bon avant qu'il rejoigne Ferrari. On a toujours été assez proches. On partage pas mal de passions au-delà de la Formule 1. Donc, on avait toujours quelque chose à se dire. Et ça n'a pas changé depuis qu'il a rejoint Ferrari. Donc voilà, non, ça se passe super bien et ça continuera comme ça.
Voilà, Charles Leclerc, ultra positif sur son association avec Hamilton. Bon, ils ne vont pas commencer à se tirer dessus avant le début de la saison, mais, Mais ce côté égo aussi, c'est important, Louis. Je pense, dans un milieu comme la Formule 1, toi, tu l'as souvent dit, attention, il ne faut pas que Leclerc soit écrasé non plus par Hamilton et qu'il se mette complètement en retrait. C'est quand même pas la personnalité de Leclerc, on va le dire. Surtout qu'il sort de la meilleure saison, probablement, de sa carrière, de la saison la plus aboutie. Il y a eu une période de creux, là, l'été dernier, on l'a dit. Mais sinon, la saison de Charles Leclerc, elle est ultra consistante, la saison dernière.
Ouais, bah, c'est une bonne saison, une saison solide qui laisse justement présager que la suivante va être encore meilleure. Et là, tu lui mets Hamilton face à lui. Donc, ça va lui changer beaucoup de choses. Sur le côté, le fait de se faire écraser, mais plus médiatiquement, tout ça, jusque-là, il n'en souffre pas. Et je suis sûr même qu'après des années à être...
Ça peut lui faire du
bien,
peut-être.
Ça peut lui faire un peu de bien, parce que ça doit t'enlever un peu de pression dans les soirées, dans les trucs, dans les machins. On regarde plus Hamilton que toi. Tu vois, tu es un peu plus tranquille, dans les journaux peut-être aussi. On notera, la première erreur d'Hamilton fera plus de bruit que la première erreur de Leclerc.
Et ouais, puis... Il a fait une erreur, Hamilton, hein, il s'est craché en essai.
Ouais, voilà.
C'est vrai.
Et à l'inverse, la première course solide ou le premier exploit d'Hamilton fera plus de bruit que celui de Leclerc. Donc ça peut aussi être une bonne chose. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça. Si tu commences à vouloir faire le combat de coq avec un 7 fois champion du monde comme Hamilton, ça sert à rien, tu vois. Donc il faut aussi... savoir qui tu es. T'es un grand pilote qui veut prouver que t'es aussi rapide voire plus, mais t'es pas du tout la star internationale qu'il est, quoi. Donc il faut abandonner cette partie-là, se concentrer sur la voiture, et au bout de trois courses, au bout de 3-4 courses, s'il est dans le game, ça se passera bien. Après, s'il continue à rester serré, au bout de 10-15, ça peut moins bien se passer, parce que ça peut agacer l'un ou l'autre, tu vois.
Ça, c'est sûr. Bah, de toute manière, il y aura des rivalités internes. Ça, c'est clair. Est-ce que vous voyez, Alex, est-ce que tu vois un pilote Ferrari être capable d'aller chatouiller Norris, de terminer vice-champion du monde? Est-ce que tu sens que voilà, ils sont armés, là? Tu nous le disais un peu tout à l'heure, mais ça bosse bien avec Frédéric Vasseur. On se dit que c'est peut-être pas l'année ou jamais, mais en tout cas, c'est peut-être la première année depuis très longtemps où Ferrari démarre une saison en se disant vraiment... On peut croire à quelque chose. Alors qu'ils ont changé quasiment, on va pas dire, ils ont quasiment changé toute leur voiture. Bah, ils changent énormément de choses et malgré tout, on se dit que ça bosse bien et qu'ils peuvent vraiment aller chercher un truc. Est-ce que tu penses que c'est jouable de voir Leclerc ou Hamilton chatouiller Norris?
Bah, tu vois, ce que tu viens de dire par rapport à la voiture prouve justement que Ferrari veut gagner, non pas le, mais les titres en 2025. Quand tu as Lewis Hamilton qui vient dans ton écurie et qui fait ce move de légendaire, de toute façon, de passer de Mercedes et d'oser passer à Skoda Ferrari, tu peux pas être patron de la Skoda Ferrari et dire « Ah non, en fait, cette année, on joue pas le titre. » Jamais de la vie, t'es obligé. T'es obligé de dire à Lewis Hamilton, pour le motiver, notamment de venir justement chez Ferrari, de dire que dès que tu viens, on joue le titre. Parce que chez Mercedes, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2022? Pas possible de jouer le titre. La voiture Mercedes était perdue. Ils sont perdus d'ailleurs dans la relation avec Lewis Hamilton, au point où ils ont pensé à Antonelli avant que Lewis Hamilton pense à partir. Et puis derrière, on en est arrivé à une situation où Hamilton a fait « Allez, je prends la tangente, je me casse, je vais directement du côté de la Skoda Ferrari, où là, il y a un projet pour aller gagner les titres. » Il y a même une petite insight par rapport à Drive to Survive qui sort bientôt. Il avait dit
Demain. On sort demain. Le podcast jeudi, ça sort demain, je crois.
Ah oui, ça sort demain. Et dedans, vous verrez notamment une discussion entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton, où Carlos Sainz pose la question à Lewis Hamilton: est-ce que tu penses que Mercedes regagnera? Lui, il dit: je pense pas. Ça veut tout dire. Donc ça veut dire que chez Ferrari, lui, il pense qu'il va gagner, et il pense que Ferrari va gagner, et le projet en tant que tel pour, j'ai envie de dire, convertir Lewis Hamilton à venir chez Ferrari, ça veut dire qu'il y a tout. Il y a tout chez Ferrari pour gagner. La voiture, elle a été changée à 99,9%. Donc pour 2025, ça veut dire que Lewis Hamilton et Charles Leclerc pourront jouer le titre selon Skoda Ferrari. Et avec tout le respect que j'ai pour les Norris, quand t'as un Lewis Hamilton derrière toi, je pense qu'il y a quand même 99,9% de chance, s'il est à son prime, qu'il te batte.
C'est clair que Lewis dans le rétro, ouais, ça pique un peu. Ce que je retiens aussi sur ce début de podcast, c'est que tu as eu le droit de voir des images en avant-première de Drive to Survive la saison 7. Alors que nous avec Louis, que dalle. Nous, on attend la sortie, on paye notre abonnement comme tout le monde. Louis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors... C'est comme ça.
Ouais, on s'accroche, hein, on fait ce qu'on peut.
Mais il paraît que... Alors non, parce que en plus, j'ai lu un petit papier sur la saison 7 là, tout à l'heure, et ça s'annonce incroyable. Ouais, ça a l'air très croustillant là, sur tout ce qui s'est passé l'année dernière. Alex, ça a l'air vraiment, vraiment fou.
Alors pour être honnête, j'ai jamais été autant hype d'une saison de Drive to Survive. Alors les dernières, je l'ai même pas terminée, elle m'intéressait beaucoup moins, j'ai envie
c'est
de dire.
C'est la 7ème déjà. Fait... Et tu sais, c'est la 7ème saison qui sort.
Ça fait bien 3-4 ans que moi, j'ai la hype a vraiment baissé. C'est-à-dire que je pense que après avoir vu la première saison, à la seconde, une semaine avant, j'étais en mode allez là, faut que ça sorte.
Mais ce qui est fou, c'est que là, c'est que tout le monde de la Formule 1 est engagé vis-à-vis de Drive to Survive, alors que souvenez-vous, et sur la première, deuxième saison, Mercedes, Ferrari ne voulaient pas d'eux.
Ouais, ça
qui est fou. Quoi.
Ils ont Netflix a dû prouver par son produit en fait, et avec le boom de la première saison, les autres se sont dit bah non, en fait, on serait idiot de pas y aller. Ouais. À l'inverse, ça n'a pas forcément pris dans le vélo. C'est dommage parce que moi, ça me plaisait bien aussi celle du Tour de France, perso.
Ouais, c'est vrai.
C'est la septième. C'est vrai que c'est une belle réussite. Ça fonctionne. Et comme dit Alex, là, t'as quand même déjà dans les teasings, on a eu le droit. Donc on sait qu'on va avoir les moments, Toto qui raconte. À quel moment il apprend que Lewis se barre.
Un extrait avec Suzy Wolf, notamment, qui est hyper intéressant.
Il a déjà tout vu, le voleur.
C'était sur une terrasse, Toto Wolff, Suzy Wolff qui discute. Elle dit notamment et toi, tu veux pas prendre Fernando Alonso? Et elle répond c'est un intérimaire.
Ah ouais.
C'est bon, ça.
On va se régaler. Non, mais il y a plein de trucs. Il y a les embrouilles Horner, il y a Briatore qui revient chez Alpine, c'est le fouet.
Non, mais ça part de tous les côtés.
Ça va être dingue. Revenons à nos moutons, comme on dit. On a parlé de Ferrari, Max Verstappen, les gars, où est-ce qu'on se situe là un petit peu Oui, c'est vrai que tu nous le dis depuis l'année dernière, Alex. Tu t'en es persuadé.
Parce que là, la saison de Red Bull, c'est maintenant ou jamais. S'il ne performe pas, et en plus de ça, il y a malheureusement des mauvaises indications vis-à-vis de l'avenir de 2026 par rapport au moteur Red Bull associé à Ford. Ça s'annonce compliqué vis-à-vis de ça. Donc l'année prochaine, qui est une saison où on se concentre beaucoup sur le moteur avec une aéro qui change nettement, avec une aéro active, mais je pense qu'on aura le temps dans futurs podcasts d'en parler un peu plus. Mais le moteur en particulier, ça s'annonce très mal. Et si justement le moteur Red Bull Ford n'est pas bon et que cette saison, ça se passe aussi très très mal vis-à-vis de la RB21 qui... on dit justement que tous les problèmes sont résolus vis-à-vis de l'an dernier. Maintenant, une fois que les problèmes sont réglés, il faut trouver de la performance. Et que pour Max Verstappen, j'ai pas senti non plus qu'il était...
Tu sens pas le trimballé. Bon,
il est pas, c'est pas essentiellement emballé, mais pas hyper content non plus, hyper joyeux ou quoi que ce soit. Et on sent qu'il reste calme et qu'il va attendre de voir comment les choses vont se passer. Mais je m'attends pas à ce que Red Bull soit dans la domination, comme par exemple contre McLaren, ou avec... je mettrais peut-être plus vis-à-vis par rapport à Mercedes, ou... Ferrari, moi je vois plus McLaren avec derrière un petit peu plus Ferrari, et ensuite on a Mercedes et Red Bull qui se battent entre eux. Je pense que c'est plus ça, et que si tu mets ne serait-ce que ça, Red Bull se bat pour Verstappen se bat pour une cinquième place, ça lui suffira pas.
C'est clair. On rappelle quand même qu'il cherche un cinquième titre consécutif. Ouais. Que y a que Michael Schumacher qui l'a fait déjà. Et y a un truc, c'est que moi, je voulais te poser la question, Louis. Verstappen, l'année dernière, il fait des miracles sur la deuxième partie de saison avec une monoplace qui est plus au niveau, en tout cas, pour prétendre au titre. Est-ce qu'il peut encore faire des miracles cette saison avec une monoplace qui est moins forte que les autres? Est-ce que le potentiel pilote... Parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression, et vous me dites si je me plante, les gars, qu'on s'amorce vers une année 2025 où les écarts, tu parlais de convergence des forces, Alex, les écarts vont être ultra resserrés. Il y aura peut-être des voitures en début de saison qui vont se détacher un petit peu, mais très vite, on sent que la concurrence va réduire les écarts. Et peut-être que les pilotes n'auront jamais eu un impact aussi important que sur cette saison. Le potentiel pilote, en tout cas. Moi, je me dis qu'avec ça, si on part de ce postulat-là, Verstappen, il peut encore tout éclater. Parce que c'est quand même pas loin d'être le meilleur en piste depuis une, deux, trois saisons. Tu vois, Louis.
Bah on est comme tu dis sur une fin de réglementation. Donc certes il y a des écarts, mais les écarts sont minimes. Donc en effet, aller chercher des dixièmes, ça peut te faire septième ou quinzième. Donc et des miracles, il en fera. Après, l'année dernière, pendant 6 mois, il n'avait pas vraiment besoin d'en faire, ou peut-être qu'il en faisait déjà, mais il avait toujours une voiture suffisamment correcte pour... Maintenant, il commence toute la saison un peu avec le retard avec lequel il l'a fini, quoi. Donc, à la fin, il fait quoi? Il fait un Grand Prix où il regagne, le Brésil, je crois.
Brésil, voilà. Où c'est une masterclass absolue.
Exactement, mais sinon, c'était très difficile. Donc, je pense que ça sera beaucoup plus épisodique. Il va faire des petits miracles, il va être bien mieux classé que Lawson et mettre la voiture à 110-120%. Mais je pense que malheureusement, ça ne sera pas suffisant parce que la voiture partira de trop loin.
et il arrachera sûrement une victoire quand même, je pense, parce qu'on est en fin de réglementation et que les écarts sont serrés. Mais non, je le vois, je dirais 3-4e au championnat.
Ah ouais, ah ouais, mais non, moi quand même je le vois plus haut. Je le vois plus haut parce que tu vois là,
troisième. Tu m'as fait peur. Troisième.
Non, non. Moi je devrais dire.
Non mais tu non, vois mais parce que tu parles. Moi je me dis il va y avoir un orange, un rouge devant lui et lui il va réussir à être devant l'autre orange et l'autre rouge quoi.
Ouais ouais, ça se défend. Ça se défend. En fait moi je trouve qu'il a un tel impact sur la piste, sur les autres, une telle agressivité, une telle soif de victoire. Alors oui, ça va pas compenser les retards de sa Red Bull, mais malgré tout sur certaines courses, tu vois, encore en fin de saison quand même, OK, il va chercher le Brésil mais il va chercher une victoire au Qatar alors qu'il a pas la meilleure voiture. Il arrive quand même à chaque fois à aller gratter des trucs là où tu l'imagines pas, à sortir un samedi de zinzin et derrière à conserver sa première position. Je sais pas. Je méfions-nous quand même de Verstappen. Peut-être qu'on l'enterre un peu vite. Moi, je me dis ça.
Mais bon. Que Verstappen est considéré comme le troisième meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, selon la Formule 1 elle-même.
Ah ouais ? Mais sur quoi ils se basent ?
Alors, j'ai pas lu l'article, mais ils ont mis. Je sais plus qui ils ont mis. Je crois qu'ils ont mis.
Takuma Sato.
Ils ont mis Ayrton Senna deuxième, je crois, en plus.
Ouais.
Ouais. Mais bon. Alain Prost est dans le top 5.
Après bon, c'est tellement subjectif là, débats sur le GOAT et tout ça en fonction des époques, ouais, c'est trop dur. Je pense que Jean-Luc dirait que c'est totalement n'importe quoi, il va nous écouter, il va se retourner sur son vélo là, Jean-Luc.
Tout le monde sait que c'est François Sévère, merde.
Mercedes, les gars, il a une attraction quand même. Bon, George Russell va occuper un peu le rôle de pilote numéro 1, mais il y a Andrea Kimi Antonelli qui est probablement le rookie le mieux préparé de l'histoire de la Formule 1. Jamais un rookie n'avait bénéficié d'autant de temps de roulage, d'autant de minutes passées dans le garage avec des ingénieurs. Enfin voilà, il est formaté pour ça. On sait que c'est le futur de Mercedes. Comment on juge cette écurie Mercedes là, avant le début de cette saison ? Vous me l'avez dit, un peu comme Red Bull, un peu quatrième force du plateau, troisième, quatrième force du plateau ?
Ouais. Ouais, je pense que c'est plus troisième, quatrième force du plateau parce que c'est. Je pense que je suis très biaisé, à juste titre, je pense, par rapport à depuis 2022, dans le sens où Mercedes, on parle quand même d'une écurie qui est multiple championne du monde, qui a des installations de fou, qui a été absolument fantastique avant 2022 et qui a performé qui a même révolutionné, j'ai même envie de dire, par la Formule 1 d'une certaine manière par la performance. En fait, depuis 2022, ils n'arrêtent pas de se chercher. L'impression que chaque course, c'est libre, en fait. On dit, ouais, on cherche, on essaie de comprendre ce qui se passe. La voiture, on ne sait pas comment elle se comporte. Ils font une voiture en début de saison, ils ont beaucoup, beaucoup d'attentes. Puis après, ils font, ah, en fait, on s'est peut-être trompé. En fait, elle n'est pas si bonne que ça. En fait, on fait des monoplaces qui sont mal nées. Donc, en fait, j'ai plus réellement d'espoir à proprement parler par rapport à Mercedes. Ils disent qu'ils ont une voiture qui est plus conduisible par rapport à l'année dernière. Ok, soit, est-ce que c'est une voiture qui sera performante ? J'avoue que même s'ils me disent là demain, en Australie, on sera capable de jouer le podium ou de jouer un top 5, je pourrais même dire, je peux pas vous croire en fait, parce qu'il y a tellement. L'expérience me donne raison que finalement, on ne peut pas croire à Mercedes à l'heure actuelle. Et mais en plus de ça, un aveu de faiblesse de fou, enfin, juste ne serait-ce que Lewis Hamilton. Tu t'es tellement perdu que tu en as perdu Lewis Hamilton. C'est un désaveu de fou vis-à-vis de l'avenir.
Première fois depuis 2012. Hein. On rappelle que Mercedes fait sans Lewis Hamilton. Hein. C'est 13 ans, 12 ans. 12 ans de Lewis Hamilton. Donc, quand tu quittes ce projet-là,
ouais,
c'est
clair. Oui, puis comme dit Alex, il est loin le temps de leur première voiture qui n'avait pas les pontons. Là. Enfin, je veux dire, tu avais le temps de te refaire quand même. Et, bon, alors, évidemment, ils se sont refaits parce qu'elle était vraiment très, très mal née, la première de cette réglementation.
Ouais.
Mais... moi je m'attendais à qu'ils se refassent plus vite et plus fort. Et
ils ont gagné des courses quand même, les gars, la saison dernière. Ils ont gagné 4-5.
Non, mais il y a eu un jump quand même. Mais c'est vrai qu'on va terminer cette réglementation dans un an. Aujourd'hui, on s'attend à pas grand chose d'eux, on va dire, sur le plan du championnat. Il y aura peut-être quelques grands prix. Mais c'est clair que quand tu sais d'où ils viennent il n'y a pas si longtemps, c'est une vraie descente. Alors, pas aux enfers, mais ouais, c'est plus du tout le piédestal sur lequel ils étaient parce que depuis qu'ils rachètent Braun, ils ont fait des merveilles très vite quoi. Ouais. Donc et d'ailleurs ils ont arrêté de les faire très vite aussi. C'est peut-être comme ça que ça marche chez eux.
Est-ce que vous avez un pilote surprise là pour cette année 2025, un mec qui au championnat va vraiment surprendre un peu son monde? Est-ce que voilà, il y a un mec qui sort du lot selon vous, qui peut venir un petit peu perturber l'ordre établi? Alex.
L'ordre établi, alors étonnamment, je vois pas Hadjar ou Tsunoda du côté de chez Racing Bulls être vraiment, être révolutionnaire, j'ai envie de dire, ou être hyper impressionnant. J'ai un peu doute vis-à-vis de l'écurie Racing Bulls en tant que telle, mais bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début quand je parlais de Williams. Je pense que Carlos Sainz ou Alexander Albon vont nettement impressionner, pas seulement par leur pilotage, mais en particulier même dans la globalité de Williams. Parce que j'ai l'impression que c'est l'écurie, comme je reprends le terme, mais la plus intrigante, parce qu'ils ont fait des essais hivernaux très très calmes, très posés, très performants, un rythme de course qui est hyper intéressant vis-à-vis de, du moins avant le premier Grand Prix de la saison, donc ça apporte énormément d'espoir. L'écurie semble aller mieux, donc je pense qu'un Carlos Sainz ou Alexander Albon, premier Grand Prix de la saison, ça peut faire ne serait-ce qu'un top 8, et en plus de ça, je pense que sur leur saison entière, Williams peut terminer, aller peut-être 6e, 7e force, et même battre Aston Martin qui semble être en difficulté, je pense.
Williams qui a terminé 9e la saison dernière, mais ça va mieux quand même, hein, depuis 2 ans, depuis que James Wolff est arrivé là. Louis, on sent qu'il y a une petite dynamique qui se crée chez Williams.
Et déjà, à l'inverse d'il y a quelques années où il y avait une dynamique aussi, mais elle était très mauvaise, et où chaque année, il y avait un truc en plus. On se rappelle quand même qu'ils sont arrivés en retard à des essais. Enfin, on part de très loin. Donc là, moi, je suis très content de revoir cette écurie historique faire un travail cohérent. J'avais eu le fantasme quand James Wolff est arrivé que ça serait même plus rapide, mais ça reste de la Formule 1. Donc il y a de l'inertie, il faut le temps que les choses se fassent. Il faut faire des bonnes choses sur un temps long. C'est pas parce que tu vas changer trois trucs dans l'orga que tu vas le sentir dans la voiture. Donc là, on sent que ça arrive un petit peu. Donc toujours très excité avec Williams en début de saison, de toute façon. Les dernières années, j'étais toujours très déçu au bout de 3 courses. J'espère ne pas l'être cette fois, et comme l'a dit Alex, sacré line-up pour eux aussi. Hein.
Non, mais ça fait des années. On se rend pas assez compte qu'ils ont un line-up de top team.
Bah oui.
Alors qu'on parle de l'avant-dernière écurie 2024. C'est absolument phénoménal le travail qui a été réussi par James Bowles. Ouais.
Louis, toi, t'as quoi? T'as un petit pilote
Allez, Nicolas Pinto.
je le laisse à mon Nico. Ça, ça fait une semaine qu'il a tout écrit. Une chronique de 12 pages. Pourquoi Colapinto sera le premier octuple champion du monde?
Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts.
Non, mais je te charrie, mais moi je vais toujours au même endroit aussi. Hein. Je vais dire Pierre Gasly, parce que vous allez voir que l'Alpine, elle ne va pas être trop mal, et du coup, il va encore réussir à faire un truc. Je ne sais pas où, quand, combien de fois dans l'année, mais tu vois, le pari de Zinzin, ça va être jeudi encore un podium pour Pierre.
Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien. Voilà. Ouais. J'aime bien. Bon, j'ai vu une petite interview de Flavio Briatore là. Il a parlé à nos confrères de Motorsport, où il parle du projet d'Alpine. Il dit que l'objectif en 2026, c'est d'être en capacité de gagner des courses. On lui dit avec quel pilote. Il dit on sait pas encore. Il parle pas de. Il parle pas de Pierre.
Il est embêtant. Il parle pas
du tout de Pierre.
J'aurais pas cru qu'il fasse ça à Gasly. C'est-à-dire que, autant deuxième pilote, oui, y a pas de souci, mais autant Gasly quand même. Est-ce que c'est la dernière année de contrat de Gasly potentiellement?
Je pense que oui. Mais bon, je trouve que voilà, ça m'a surpris un peu. Tu vois, j'ai lu ça juste avant de commencer le podcast tout à l'heure, et je me suis dit pas ouf. Le petit point d'interrogation qu'il laisse et le message.
C'est Briatore. Tu te dis Enfin, moi, je l'écoute jamais en fait. Est-ce qu'il dit les. Tu vois, il a son narratif, mais en fait c'est pas il est jamais franc, il est toujours dans le narratif, dans son truc, faut que ça, et puis alors ça fonctionne hein, mais de là voilà, c'est comme dit Alex, ça se trouve il y a une histoire de contrat derrière.
Justement Nico, j'allais en parler parce que c'était dans le teaser, il a dit mais alors c'était cette scène, elle est hallucinante. Je sais pas si t'as vu dans le teaser quand il dit à Jack Doohan, yeux dans les yeux, je te contrôle. Je te contrôle au millimètre près.
À la seconde,
Jack Doohan, qui est liquéfié, littéralement. Mais c'est hallucinant. Excellent client retrouvé par Drive to Survive. Là, c'est parfait pour ça.
Et là, ils ont dû se régaler. Là, je pense que les équipes de Netflix, là, ils ont dû se régaler.
C'est sûr que quand tu bosses chez Netflix, on te dit alors Briator ou Oliver Hawks. Alors, on va prendre Briator pour l'intérieur, s'il vous plaît.
Flavio, il est pas dispo là. Flavio, il est pas dispo.
Bruno Fama, il est plus là. Ah bah, tant mieux. Parfait.
C'est pas grave.
Parlons de nos Français, les gars. On va quand même parler de nos Français. Isaac Hadjar chez Racing Bull, Esteban Ocon chez As, Pierre Gasly, on en parle un petit peu là chez Alpine. Mais là aussi, il y a de la hype autour de nos Français, parce que moi, j'ai envie de voir quand même ce que va donner Ocon et As. Ouais. On rappelle que As a fait la deuxième meilleure saison de son histoire l'année dernière, que c'est probablement l'équipe du midfield qui a le mieux bossé, en tout cas, l'arrivée de Toyota, Komatsu qui a remplacé Gunther Steiner, qui franchement fait un gros, gros, gros boulot. Et puis une line-up aussi, là, Alex, mais un line-up de ouf, Oliver Bearman, Esteban Ocon, pour As. Moi, j'ai hâte de voir ça, quoi.
Et ben justement, c'est, je repensais aussi les line-up les plus intéressants, et je pense que Ocon Bearman, ça rentre facile dans le top 5, parce que c'est extrêmement complémentaire. As a aussi récupéré mais c'est une opportunité de fou de pouvoir récupérer un Esteban Ocon au sortir de Kevin Magnussen, mais également de Nico Hülkenberg, qui a fait une saison absolument fantastique et qui s'est lancé d'ailleurs dans le projet Audi pour 2025 et bien sûr 2026. Mais en particulier Ocon, tu récupères un Esteban Ocon qui est un grand leader d'équipe, qui a énormément aidé Alpine, qui l'a, j'ai envie de dire, qui a été très mal propre, j'ai envie de dire ça ainsi pour vis-à-vis du français. Et aujourd'hui, il va pouvoir guider un projet qui est absolument ambitieux, que ce soit pour vis-à-vis de Haas, mais également vis-à-vis du soutien de Toyota. Toyota qui se réimplante, j'ai envie de dire techniquement, là, cette fois-ci en Formule 1. Donc là, t'as un Ocon qui se retrouve au milieu de tout ça, qui est de nouveau aimé. Mais c'est ça qui est le plus, c'est qu'il le
considéré.
Dit. Il est considéré comme, il se sent aimé, considéré, ne serait-ce que vis-à-vis de, sur des changements qu'il a demandé vis-à-vis de la monoplace pour se sentir plus à l'aise. Et As lui a fait, oh, il n'y a pas de souci. Mais il était étonné parce que chez Alpine, ça mettait 2-3 ans et encore, ça ne le faisait pas. Donc vis-à-vis de tout ça, Ocon est dans un environnement où il peut performer, où il peut guider l'équipe avec Oliver Bearman extrêmement talentueux qui est certainement le prochain pilote de la Scuderia Ferrari au sortir de Lewis Hamilton. Donc on a un rookie qui est absolument étincelant et qui est un joyau, associé à un Esteban Ocon qui est leader d'équipe expérimenté et qui est une source sûre vis-à-vis d'un développement d'une écurie et en particulier d'une monoplace pour 2025. As, tu peux clairement les voir nettement jouer avec Alpine, avec Racing Bulls et certainement avec Williams aussi. Donc vis-à-vis du midfield même, ça va être extrêmement intéressant vis-à-vis de ça parce que on va être dans une énorme bataille de la guerre du milieu, quoi.
Mais ça va être dingue parce que franchement, les Grands Prix vont être ultra kiffants.
Ouais, de tous les côtés.
Si devant tu t'ennuies un peu, tu sais qu'en milieu de tableau, ça va être fou. À part Steak, on va pas trop parler de Steak, mais à part Steak, qui tu le disais, projet Audi, qui va probablement très
c'est
rapidement
parti remise dans un an. Dans un an, on pourra suivre tout le monde. Quoi.
Même encore ça.
Exactement. Exactement. Mais là, tu te dis. Louis, après, on parle aussi un peu d'Isaac Hadjar, qui a réalisé des tests. En tout cas, il était très satisfait de ses tests hivernaux, son écurie aussi, qui n'a pas bénéficié d'un temps de roulage incroyable pour un rookie. Ça aussi, ça compte. Hein. Moi, je pense à Antonelli, à Bearman. Ils ont quand même un temps d'avance par rapport à Isaac, parce que lui, il a eu quoi, 2 séances d'essai l'année dernière, je crois bien. Seulement, hein, il a eu ça, les essais pré-saison à Bahreïn et premier Grand Prix. Quoi. Donc,
il a fait des tests privés aussi avec une ancienne AlphaTauri, AlphaTauri certainement. Il a aussi fait le shakedown. Ouais. Et qui est à Imola aussi, donc bon, c'est pas énorme.
Temps de roulage pas dingue, quoi. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu le vois être capable de. Alors, son coéquipier Tsunoda, c'est sa 5e saison de Formule 1. Est-ce que tu le vois capable de rivaliser, Louis? Et en plus, quels sont pour toi les objectifs d'Isaac sur cette saison? On le disait, pas se cracher au début, pas perdre la voiture, voilà. Mais en termes de points, est-ce que tu le vois être capable d'aller chercher des puntos de cette année?
Les puntos, ils seront là en fonction de la voiture, hein, parce que ces dernières années, cette écurie a quand même beaucoup de difficultés à en attraper, un peu, je veux dire, quel que soit le pilote. C'est-à-dire qu'ils sont un peu trop derrière pour vraiment le jouer. T'as Tsunoda qui arrive quand même chaque année à faire une petite moisson. Hein, voilà, une petite moisson. Et donc Isaac, je pense qu'il peut arriver à faire pareil. Moi, je pense qu'il peut matcher. L'objectif, c'est ça, c'est être très propre et matcher assez rapidement Tsunoda. Et puis après, dans nos rêves les plus fous, le battre. Puisque le deuxième site Red Bull n'est pas non plus... tu vois, et pas non plus pris pour des années, hein, parce que Lawson, il va vite être jugé aussi. Hein, donc, donc toi, t'es le gars qui vient d'arriver, qui a un peu la hype avec, t'arrives à matcher, voire battre celui qui est là depuis 5 ans. Tout de suite, tu deviens pas loin d'être, on va dire, le favori numéro 1 si Lawson doit être sorti du baquet, quoi, pour le remplacer. Et donc là, tout de suite, tu peux monter vite. Après, évidemment, ça, voilà, être propre avant tout. Être propre avant tout, je pense que c'est dans la, par rapport à la situation d'Isaac aujourd'hui, propre et rapide. Voilà.
D'autant plus que je rajoute par rapport à l'argument qu'il se doit d'être très propre et performant assez rapidement parce que si Tsunoda reste comme il est et fait encore une très bonne saison, pour avoir un leader d'écurie comme Tsunoda, Vicard aura raison de le garder. Et en plus de ça, il faut rappeler que dans le junior team de Red Bull, il y a un autre pilote qui va faire de la F2 cette saison et qui est extrêmement talentueux et qui est britannique, si je me trompe pas. C'est Arvid Lindblad. Et lui, il va falloir faire très attention. Et c'est une grosse menace vis-à-vis des pilotes qui sont actuellement chez Vicard et dont Visak Hadjar. Et même par rapport à Liam Lawson. Liam Lawson doit être performant tout de suite parce que lui aussi va être forcément mis sous pression, c'est dans une écurie qui peut paraître un peu toxique sur les bords vis-à-vis de la pression sur ses pilotes.
Ouais. Les pronos de Zinzin, maintenant les amis, on en a eu quelques-uns, mais bon, il va falloir qu'on se lance un petit peu dans les dingueries qui vont se produire cette saison. Il va forcément y en avoir. Moi, je veux que vous me disiez quand est-ce que Colapinto va remplacer Jack Doohan. Parce que le gars qui me dit que Jack Doohan finit la saison, en fait, c'est peut-être ça le pari de Zinzin.
C'est ça le pari de Zinzin, mais évidemment, bah, bien sûr, il finira pas.
On est tous d'accord pour dire que Jack Doohan ne terminera pas la saison avec Alpine, Alex.
Ouais, je pense que ça va être compliqué. J'aimerais qu'on se trompe tous.
Exactement.
Parce qu'il ne mérite pas ça. Ouais. Quand on promet quelque chose, un tel rêve, hein, à quelqu'un qui a couru envers ce rêve depuis tout petit, et que là, aujourd'hui, il y a visiblement un micmac contractuel qui empêche Alpine, d'ailleurs, de le virer avant le cinquième Grand Prix. J'espère qu'on va se tromper, mais là, ça semble trop compliqué. Colapinto, il a signé un contrat pluriannuel pour être pilote de réserve. C'est pas pour rester pilote de réserve, quoi.
Ouais, c'est clair. Okay. Bon, maintenant, le pari qu'on va faire, c'est quand est-ce que dès le cinquième Grand Prix, ça y est, ils prennent leur décision et
à l'issue du Grand Prix d'Arabie Saoudite, le cinquième.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça. Donc le 20 avril, quoi. Voilà. Après Jeddah, avant Miami.
Vous pouvez noter ça.
Est-ce qu'il sera à Miami ou pas?
À Miami, Franco Colapinto est un pilote alpine.
À la rigueur, titulaire. Tu vois, si comment dire, si c'est pas biaisé, c'est-à-dire que si vraiment il est bon, bah ça sert à quelque chose. Bon, à la rigueur, c'est de la F1, il faut performer, tu vois. Mm. Mais on sent quand même tous que c'est déjà fait, en fait. Tu vois, on ne l'a pas mis dehors parce qu'on va économiser les 4 millions que ça peut coûter ou que sais-je. Mais en fait, tout est déjà ficelé. Et c'est ça qui me dérange, en fait.
C'est de la
Briatore et Magouille.
Ouais. Mm.
Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a d'autres paris de Zinzin, là, chez vous? Qu'est-ce que moi j'en ai un à vous proposer. Sarno Valadon, tiens, qui nous dit
qui est en repos le jeudi.
Non, il nous dit Arnaud Valadon, après deux Grands Prix sans histoire, Leclerc et Hamilton se chauffent. Le premier accuse l'autre d'avoir fait foirer son tour de qualif à Jeddah. Hamilton menace d'envoyer. Roscoe dans le mobilhome de Leclerc, qui n'aime pas les petits chiens. Ouais. Fred Vasseur doit intervenir pour calmer les deux pilotes. Des fois, notre groupe WhatsApp, mais je me dis, mais c'est vraiment, ça ne rime à rien. Non, mais la première embrouille entre Hamilton et Leclerc, est-ce que ça va arriver ou pas?
Ouais, je pense que ça n'arrivera pas. Au du moins, si ça arrive, c'est très.
Ce sera juste une
broutille sous la tension et sous l'adrénaline des courses, quoi. Mais ce sera pas une embrouille de fou en mode on remet tout en question. Non, non. Et par contre, moi, je pense qu'Anthony gagne un Grand Prix sur les 5 premiers Grands Prix.
Ah ouais, sur les 5 premiers Grands Prix.
Ah
sur,
ouais,
sur les 5 premiers, il en gagne.
Ah là, c'est Zinzin. Là.
Ouais, je pense
ça,
que.
Ça en parlait de Zinzin. Ça, j'aime bien. Autre pari, Liam Lawson, ça termine la saison chez Red Bull.
Oui. Surtout que Red Bull, je pense qu'ils ont aussi compris qu'il fallait plus refaire les erreurs de Albon ou de Pierre Gasly, il fallait plus faire ça, et que il fallait justement garder son calme et aider justement le deuxième pilote pour éviter de se retrouver dans la situation de l'an dernier, à savoir tu peux pas en fait jouer le titre constructeur. Donc vaut mieux aider Liam Lawson dans cette situation là. Surtout qu'ils sont battus pour le garder, hein, Liam Lawson. Mm. Ils sont beaucoup battus pour le garder, donc. Ça ne servira à rien de tout foutre en l'air.
Trop tôt. Je me suis chauffé là. Je voulais mettre un podium à Hülkenberg, mais on va attendre l'année prochaine.
Ouais.
On va attendre. Voilà, on va attendre.
Attends 2029, hein, ouais. Parce que là, vu le projet Audi.
Non, mais après, il y a aussi le sujet qui va arriver, les gars, un peu dans les pronos. C'est les équipes qui vont rapidement voir peut-être qu'elles ne sont pas au rendez-vous, qu'elles ne sont pas au niveau et qui vont switcher sur la réglementation 2026 aussi. Ça peut vraiment impacter cette année quand même 2025, hein, les gars.
Mm. Ouais, je pense qu'Aston Martin, au vu des essais hivernaux, on peut rentrer dans cette case-là assez rapidement. Même chose potentiellement vis-à-vis d'Alpine, où l'Alpine, la 524, c'est une petite évolution de la 500, la 125, c'est une petite évolution de la 524.
Mmh. Ouais.
Donc ça donne quand même beaucoup, beaucoup d'indications par rapport à ce qu'ils veulent faire de la saison et se reconcentrer sur l'année prochaine.
Ouais, c'est clair. Ouais. Moi j'en ai un petit prono. Ouais, je pense que Verstappen à la mi-saison sera encore en course pour le titre de champion du monde pilote. Je pense qu'il sera pas.
C'est le meilleur pilote du monde, j'espère bien.
Ouais, mais franchement là dans ce qu'on se dit, tu vois, on dit que ouais il a la troisième voiture, voire quatrième voiture du plateau, c'est pas gagné si on en termes de perf pur.
Ouais.
Moi je pense qu'il sera là.
Sûr.
Un podium de Sainz aussi, tiens.
Ouais, c'est jouable ça.
Ouais. Ouais. Ça c'est carrément jouable vu les peurs du début de saison, ça peut se faire. Bon bah voilà, on va se noter tout ça et je vais mettre tout ça au propre, je vais mettre des colonnes avec des points,
des gommettes.
Voilà, on fera un bilan avec tous nos auditeurs et puis on verra en fin de saison si ça se produit, hein. Mais on a hâte d'être à la semaine prochaine, les gars, on a hâte de débriefer aussi cette saison de Drive to Survive parce qu'on sera tous connectés ce vendredi sur Netflix. Je sais que Jean-Luc, il n'est pas trop fan de ces séries Netflix.
Ah,
je sais.
Ouais, il faut le voir d'un prisme différent, c'est du divertissement, hein. C'est pas...
Exactement, mais c'est ce qu'on lui dit, Jean-Luc. On lui dit, mais maintenant c'est du show la Formule 1, Jean-Luc. C'est terminé le
et
sport, il y a beaucoup de show.
Sans Drive to Survive, je ne suis pas sûr que tu puisses faire un podcast aujourd'hui sur la F1.
Sans Drive to Survive, je n'aurais pas de carrière.
Ouais, voilà, non, mais ça a ramené toute une jeunesse devant la F1 et c'est génial, et voilà, faut pas faire la fine bouche. Hein.
Ah non, mais ça c'est clair que ça a ramené un nouveau public et ça a vraiment redynamisé ça et les droits télé achetés par Canal et ce que Canal Plus a fait de la Formule 1 quand même. Ça a ramené.
Alors qu'au début moi ça m'en a éloigné, tu vois, puisque mon père voulait pas qu'on ait Canal. Et
bien sûr. Et puis à l'époque
les années Vettel, moi je les connais quasiment pas en fait parce que je les ai pas vécues.
Ouais, je comprends. T'as pas eu une enfance facile.
Non,
ouais,
non
c'est
non,
dur.
Non. Et alors putain, bon, les gars, cailloux merci en vinaigrette beaucoup. Le soir et tout, enfin ouais.
Merci beaucoup, rendez-vous jeudi prochain pour le warm-up du Grand Prix d'Australie. C'est la première manche de la saison, ça va être dingue. D'ici là, vous n'oubliez pas, vous nous notez sur toutes les plateformes de téléchargement, vous partagez le podcast à tout le monde. On va vivre une année 2025 folle. C'est une année qui nous excite tous. Ah mais ça va être passionnant, voilà. Franchement. Moi je suis pas excité comme ça depuis 10 ans là, avant de démarrer une saison de Formule 1. Non mais c'est vrai, ça va être fou. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les gars.
Ciao.
Le paddock RMC.